Et on va continuer, comme Tonio l'a dit, dans l'étude de la lettre aux Hébreux. Si vous voulez vous tourner dans Hébreux 4, Tonio nous a parlé du repos qui est promis au peuple de Dieu, au chapitre 4. Et il a couvert les versets 1 à 13. Et il a noté qu'en fait, il y avait des versets sur lesquels il devait aller assez vite, mais qui étaient dignes d'une étude beaucoup plus approfondie, notamment le verset de la Bible qui parle de la Bible elle-même. Le meilleur commentaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. Et il nous est dit, entre autres, que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et ça, c'est aussi un verset glorieux, formidable, sur la parole elle-même. Mais il y a d'autres passages dans la lettre aux Hébreux qui nous indiquent l'importance, le caractère fantastique, formidable de la parole de Dieu, et on va les découvrir au fur et à mesure, et on y reviendra après qu'on aura terminé la lettre. Je pense faire une session spéciale juste sur la parole de Dieu et revenir sur ces passages. Donc on va continuer à partir du verset 14 de la lettre aux Hébreux, chapitre 4. Mais avant cela, prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Nous venons de lire qu'elle est vivante. Elle vient du Dieu vivant. Ce n'est pas un vieux texte poussiéreux. C'est quelque chose qui nous interpelle. Cette parole, elle est efficace pour nous transformer. Et elle a un grand pouvoir parce qu'elle peut distinguer entre ce qui est de l'esprit, ce qui est de la chair. Elle peut regarder nos cœurs, nous montrer ce qui va et ce qui ne va pas surtout. Mais elle est fantastique, elle est merveilleuse, ta parole. Elle est aussi une épée à deux tranchants. Souvent, on veut l'utiliser pour trancher la tête des autres, mais d'abord, elle peut nous trancher la tête ou nous faire réaliser ce qui ne va pas chez nous. Elle est merveilleuse, Seigneur. Et aujourd'hui, nous te demandons de l'ouvrir à nos cœurs, qu'elle puisse vraiment nous parler, nous interpeller et nous transformer dans son efficacité et sa vie qu'elle veut transmettre à chacun de nous, Seigneur. Sois glorifié ce matin par ta parole et dans ta parole et dans nos cœurs, Seigneur. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on va voir que Christ, une fois de plus, est supérieur à tout ce que l'on peut penser à mettre à côté de lui. L'auteur de la lettre aux Hébreux, on l'a rappelé plusieurs fois, il s'adressait à des Juifs convertis au christianisme, mais qui, sous la pression de persécution, étaient prêts à renoncer à leur foi en Christ. Il veut les fortifier dans leur foi en Christ. Il veut les empêcher de revenir en arrière. Et il s'applique donc à démontrer que Christ est supérieur à tout ce qu'il tenait en estime dans l'Ancien Testament. On a vu, depuis qu'on a commencé l'étude, que Christ est supérieur aux prophètes, il est supérieur aux anges, il est supérieur à Moïse, il est même supérieur à Josué. On l'a vu par allusion lorsqu'il disait, il était dit que Josué ne leur avait pas assuré le repos promis que Dieu nous promet à son peuple. Et aujourd'hui, on va voir que Jésus-Christ est supérieur à Aaron, le grand prêtre, qu'il est en fait supérieur à tous les grands prêtres de l'Ancienne Alliance, Et ce thème de Jésus supérieur en tant que grand prêtre va être développé dans les 5 chapitres qui vont venir. Mais on va commencer par lire jusque donc du verset 14 du chapitre 4 au verset 10 du chapitre 5. Et je vais aussi vous demander de vous lever pour éviter qu'on s'endorme. Et par respect pour la parole, c'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude. Tonio l'a fait la semaine dernière, et c'est vrai que ça montre notre attitude devant la parole de Dieu. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge, à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il dit aussi ailleurs « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizédek ». Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert, et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchizédek. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Pour nous qui vivons au XXIe siècle, la notion de grand prêtre n'est pas tellement parlante. La caractéristique ou la personne qui peut-être pourrait se rapprocher le plus dans nos esprits modernes, entre guillemets, c'est peut-être le pape. Le pape de l'Église catholique. Il est appelé le vicaire de Christ, il est supposé être son représentant. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est on l'appelle des fois le souverain pontife. C'est un drôle de nom. En latin, c'est le pontifex maximus. Ça veut simplement dire le grand pont, le grand viaduc. Le viaduc de Millau spirituel, c'est l'idée qu'en fait, il assure une connexion entre nous les hommes et Dieu Tout-Puissant. On sait que la parole de Dieu est claire, qu'il n'y a en fait qu'un seul médiateur. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, c'est Jésus l'homme, nous est-il dit dans 1 Timothée 2,5. Mais l'idée du grand prêtre, qui a trouvé son accomplissement, sa pleine réalisation en Jésus-Christ, c'était une notion qui avait été instituée dans l'Ancien Testament, dans l'Exode. On voit comment Dieu avait demandé à Moïse ça se trouve dans Exode 28, on peut y aller ensemble. Ça ne devrait pas être difficile, c'est le deuxième livre de la Bible après la Genèse. Exode 28, verset 1. Fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils, prends-les parmi les Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtres. Il s'agit d'Aaron et de ses fils, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Et puis il décrit ensuite les vêtements sacrés. Et il y avait notamment, ce qui était intéressant, un pectoral, un vêtement qu'il portait sur la poitrine. Et sur cet éphod, cette chose qui lui couvrait le torse, il avait des pierres précieuses, 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et c'est comme s'il portait sur son cœur les tribus d'Israël, le peuple de Dieu, et il allait offrir des sacrifices pour demander pardon pour les péchés du peuple. Et il servait en fait d'intermédiaire de grand pontife, pontife Maximus, grand prêtre, entre les hommes qui sont des pécheurs et le Dieu qui est parfait. Et ces grands prêtres, ils avaient des exigences. D'abord c'était il est dit qu'il est Jésus-Christ est donc comparé à un grand prêtre souverain, le top du top en matière de grand prêtre, parce qu'il a traversé le ciel alors que les grands prêtres, quand ils célébraient le culte d'abord dans le tabernacle et ensuite dans le temple, lorsque un temple en dur a été construit d'abord par Salomon et en revu et modifié par d'autres. Mais c'était pendant quelques instants, le grand prêtre pouvait aller en présence de Dieu, mais il n'y avait qu'un homme qui pouvait le faire, c'était lui. On a déjà parlé qu'en fait, il y avait une société très, très patriarcale. Les femmes ne pouvaient s'approcher que jusqu'à un certain point. Il y avait une barrière qui séparait l'accès des femmes à aller plus loin dans le temple en se rapprochant de Dieu. Passé cette barrière, les hommes juifs pouvaient venir. Là, il y avait des catalogues IKEA pour les hommes. Toute ressemblance est fortuite. Il y avait ensuite l'endroit où les hommes ne pouvaient plus aller. Et là, il y avait seulement les prêtres qui pouvaient aller plus loin. Et grosso modo, il y avait dans le tabernacle et dans le temple l'idée qu'il y avait d'abord un parvis. Ensuite, il y avait une construction. Donc le parvis, on pouvait y aller. Même les païens pouvaient s'approcher du parvis. Ensuite, les femmes juives pouvaient aller un peu plus loin. Et puis, au début, c'était des tentes. Il y avait ce qu'on appelait le saint lieu. Et puis, il y avait plus loin, il y avait le saint des saints. Et pour aller dans le saint lieu, il fallait être prêtre. Là, on pouvait les prêtres officier. Ils entretenaient le chandelier à cette branche, ils mettaient des pains sur les tables, des pains de proposition. Il y avait un autel des parfums aussi qu'ils devaient entretenir. Mais pour aller plus loin, il fallait être le grand prêtre. Et encore, ce n'était pas n'importe quand qu'on pouvait y aller pour le grand prêtre. C'était qu'une fois par an, le jour de l'expiation, le jour du Yom Kippour. Et là, même ce jour-là, le grand prêtre ne pouvait pas rentrer n'importe comment. Il devait d'abord offrir un sacrifice pour lui, pour ses péchés. Et puis après, lorsque ce sacrifice avait été offert, là, il était autorisé par la loi, par Dieu, à offrir un animal en sacrifice, généralement un taureau, pour le sacrifice, pour, en sacrifice pour le peuple, pour les péchés du peuple. Donc c'était un ministère très particulier, mais ici nous voyons que Jésus-Christ, il était encore plus grand que ce grand prêtre qui mourait, qui était remplacé. Ces prêtres descendaient d'Aaron, donc le frère de Moïse, et par la tribu des Lévites. Et donc c'était toujours dans cette tribu qu'on sélectionnait les prêtres. Il y avait des familles dans les Lévites qui sont détaillées dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que il fallait, pour être grand prêtre, il fallait être de cette descendance. Et là, il nous a dit qu'en fait, nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel. Ce que je voulais dire, c'est que le prêtre, le grand prêtre terrestre, qui officiait dans le Saint des Saints, le jour du Yom Kippour, le jour des expiations, lui, il disparaissait à la vue du reste des gens juste pendant le temps où il entrait dans le Saint des Saints. Les grands prêtres, les prêtres plutôt, le voyaient encore, et puis là, il partait, on ne savait pas s'il allait être accepté ou non. La tradition dit qu'en fait, on lui attachait une cordelette au pied, et que si on entendait qu'il n'y avait plus de bruit, qu'il n'y avait plus de mouvement, on se demandait si peut-être le sacrifice pour les péchés du grand prêtre n'avait pas été accepté et qu'il ait été zappé par la puissance de Dieu, par la gloire de Dieu qui habitait le Saint des Saints où se trouvait l'Arche de l'Alliance, recouvert par un couvercle avec des anges qui se faisaient face et au-dessus duquel il y avait la gloire de Dieu, la gloire, la Shekinah qui brillait. Donc tout ça, nous, ça nous paraît, il faut qu'on explique, ça ne ressemble pas tellement à ce qui se passe à Rome, même avec le pape, mais c'était quelque chose qui était dans l'esprit des gens qui lisaient cette lettre de l'auteur de la lettre aux Hébreux. On ne sait pas trop qui c'est, si c'était Paul, Apollos, Barnabas, peu importe, on sait que c'est le Saint-Esprit qui l'a écrite par l'intermédiaire d'un être humain. Cette position, il disparaissait pour un temps, mais là, Jésus, lui, il a traversé le ciel, ou il a traversé les cieux. C'est l'idée qu'il a dépassé les limites de l'espace et du temps. Il n'y a plus de limite à la puissance de Dieu. On a du mal à réaliser, à concevoir, à essayer de saisir la grandeur, la puissance de Dieu. On a la chance aujourd'hui d'avoir les photos des télescopes comme Hubble et on voit les myriades de galaxies qui, avec les représentations graphiques, nous donnent des couleurs fantastiques. On sait que c'est loin, que la lumière va très vite, 300 000 km à la seconde. On aurait déjà fait 7 fois le tour de la Terre, là, si on allait aussi vite que la lumière. Elles sont à des milliards d'années-lumière, ces galaxies, cette création. Et pourtant, il est dit dans la parole que nous considérons comme être la vérité, parce qu'elle est efficace, elle est acérée, elle est vivante. Il est dit dans la parole que Dieu l'a fait avec une pichenette de son doigt. Et là, des fois, on se dit, est-ce que Dieu est capable de m'aider? Est-ce que Dieu est capable de changer les choses? Est-ce que Dieu est capable d'aider les hommes? Il l'est. Quand il est dit, c'est un souverain grand prêtre. Le mot en grec, c'est le mot « méga ». Un méga grand prêtre. Un MGP, qui qui est votre MGP, votre méga grand prêtre. Il est éminent. Il devait être, le grand prêtre devait être, il nous est dit qu'il est Jésus, ça c'est son humanité, mais il est aussi le Fils de Dieu, c'est sa divinité. Encore une fois, vous pouvez reconnaître une secte à ce qu'elle renie, elle dénie, elle ne reconnaît pas la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est notre grand prêtre, il nous représente auprès de Dieu et il représente Dieu auprès de nous. J'aime bien le verset 14, « Nous avons un souverain grand prêtre, nous l'avons. » Il est là, il est prêt à nous aider, il est prêt à nous fortifier. Et ce souverain grand prêtre, ce méga grand prêtre, il ne s'est pas contenté de disparaître pour quelques moments, quelques heures. Il est remonté aux cieux après avoir été ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu, du Père Tout-Puissant. Il est la raison pour laquelle nous devons rester fermement attachés à notre foi. Ce serait vraiment ridicule de prendre une idole humaine, un grand homme, et d'en faire notre grand prêtre et ne plus jurer que par lui. Et ça, c'est Dieu nous a créé avec ce vide dans nos cœurs qui fait qu'on a besoin de lui. On a besoin d'adorer un être infiniment bon, infiniment puissant, infiniment supérieur. Et quand on ne fait pas cela avec Dieu lui-même, on a tendance à le faire avec des hommes. Ça peut être des hommes ou des femmes qu'on connaît, on devient gaga de telle ou telle personne, ou ça peut être des vedettes, entre guillemets, des stars, des hommes politiques, ah si seulement, ou des chanteurs, ou des scientifiques. Non, la seule chose, c'est qu'on peut rester fermement attaché à la foi chrétienne, la foi qu'ils professaient. Encore une fois, il veut les convaincre de ne pas revenir à leur ancienne religion. Leur ancienne religion, en fait, elle n'était pas dénuée d'intérêt. Dieu l'a donnée, les prescriptions de la loi, tout ça, ça a été donné comme une représentation des choses à venir, comme une maquette, comme un modèle. Même le temple qui a été construit après le modèle du tabernacle, ce temple, il représente quelque chose que nous allons voir un jour, si nous restons attachés à la foi que nous professons. Pour être grand prêtre, il fallait être humain, il fallait être un homme, il fallait présenter des sacrifices, il fallait aussi avoir de la compassion pour les autres, et puis il fallait avoir été appelé par Dieu. On ne s'improvisait pas grand prêtre. Et ce qui est remarquable, c'est que on peut voir qu'en fait, Jésus a rempli toutes ces conditions. Jésus a été appelé par Dieu. C'est lui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, tu es prêtre pour toujours à la matière de Melchizédek. » Ce n'est pas lui qui s'est improvisé grand prêtre, Dieu le Père lui-même l'a nommé, l'a assigné à cette fonction. C'était un homme, il s'est fait homme, c'est ce que nous célébrons à Noël, l'incarnation de Jésus-Christ. Il est à la fois homme et Dieu. Jésus, c'est son nom d'incarnation qui veut dire Dieu sauve, parce que ça rappelle son ministère de venir sauver l'humanité. Jésus est venu non pas pour condamner les hommes, mais pour les sauver, nous dit-il dans Jean. Il est aussi Dieu, et ça c'est en cela qu'il est plus puissant qu'un grand prêtre habituel ou de l'époque. Il a un titre supérieur, il est le méga grand prêtre, il est à la fois homme et Dieu, il est assis sur le trône, on l'a dit qu'il est monté et il est assis sur le trône de grâce. The throne of grace. Gnadenthrone, throne en allemand, comment on dit ? Le trône de la grâce. C'est quelque chose, c'est un concept fantastique. Les Juifs pensaient que Dieu avait deux trônes. Il avait un trône de jugement et puis il avait un trône de bienveillance. Et que lorsque ça allait mal, il venait nous parler du trône de la colère, le trône de la justice. Puis quand on se comportait bien, alors il nous parlait depuis le trône de la bienveillance. Mais là, il nous est dit qu'en fait, il y a un seul trône, le trône de la grâce. Un trône, c'est un symbole d'autorité, de puissance. Et la grâce, au contraire, ça fait penser à de la sympathie, ça fait penser à de la compréhension de la part de celui qui monte de la grâce envers l'autre. C'est presque deux notions opposées. Si on a l'autorité, on n'est pas très, très compatissant, très gentil avec les gens. Et pourtant, Jésus-Christ, il nous, ces deux notions, ces deux idées d'autorité et de bienveillance et de grâce se rejoignent en Jésus-Christ. Il est très puissant. Il nous a dit après sa résurrection, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Mais là, il nous a dit qu'il compatit à nos faiblesses. Verset 15, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir, c'est le mot sympathizo, sympathiser, avec nos asthénies, nos faiblesses. » C'est vraiment le mot qui veut dire « absence totale de force ». Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. C'est le verset 15 à la fin du chapitre 4. J'aime bien la présentation de l'idée. Il aurait pu être dit, nous avons un grand prêtre capable de compatir avec nos faiblesses. Mais là, il est dit, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Et pour moi, c'est un peu l'idée habituelle qu'en fait le grand Manitou là dans le temple ou dans l'église, etc., il est plutôt incapable de compatir. Généralement, les hommes religieux dans des positions hautes sont très durs avec ceux qui pêchent, avec ceux qui commettent des péchés. Souvent, l'Église donne cette impression d'être un lieu réservé aux gens bien, réservé aux gens qui ne commettent pas des péchés ou des péchés graves comme tous ces gens au dehors. Ça, c'est complètement contraire à la nature de Christ et à son désir. Il veut accueillir tous les hommes. Est-ce que moi, j'ai tendance à juger de haut les gens qui font certaines choses et me croire supérieur? Nous sommes tous asthéniques, sans aucune force de nous-mêmes. On peut être beau, on peut être fort, on peut avoir de l'argent, mais ça, d'un moment à l'autre, ça peut nous être repris. Et la réalité, c'est qu'on est complètement dépendant de Dieu, de sa provision, de ses bienfaits, de son amour, de tout ce qu'il nous donne. la bouffée d'air que vous allez respirer dans une seconde, un, deux, c'est Dieu qui vous l'a donné. Vous n'avez même pas réalisé qu'il vous avait donné une bouffée d'air. Et pourtant, si vous étiez dans l'espace, dans la station spatiale, et que vous vous retrouviez avec votre bouteille d'oxygène qui s'arrête, Dieu vous aime. Dieu, il compatit, il sympathise. Lui, il est un grand prêtre qui peut compatir, qui peut sympathiser avec nous. Il s'est fait homme. Il a connu les pleurs. Il a pleuré comme un petit bébé, comme le petit Paul. Il avait besoin d'être changé par sa maman. On oublie ça quand on parle de la religion, de Dieu Tout-Puissant. Non, il s'est fait homme avec toutes les faiblesses de l'homme. Et quelque chose d'incroyable, verset 15, il nous est dit qu'il a été tenté en tout point comme nous, à une différence près, c'est qu'il n'a jamais commis de péché. Ça, c'est aussi quelque chose un peu difficile à saisir. Il a été tenté en tout point comme nous. Alors, c'est vrai qu'il n'avait pas une nature de pécheur, heureusement, parce que c'est pour cela qu'il a pu vivre parfaitement. Mais il a été tenté. Il a été tenté par Satan dans le désert, par l'orgueil, par la faim, par le désir de posséder des choses. Il a été, nul doute, tenté par des péchés sexuels. Mais il nous est dit qu'il n'a... Il n'a jamais commis de péché. Mais lorsque vous êtes tenté, vous pouvez crier vers lui, il sait de quoi il s'agit. Et il garantit qu'il peut nous aider et nous empêcher de commettre ce qu'on sait être un péché. C'est un thème qu'on a déjà vu, si vous rappelez bien, dans Hébreux 2, 18, on avait vu, en effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. J'aime bien le mot secourir. Et dans secourir, on peut voir, c'est pas l'étymologie, mais on peut voir le mot courir. Et ça, c'était un terme, le mot de secourir, qui était utilisé pour quelqu'un qui a accouru pour aider une autre personne. Et notamment, une maman qui accourt lorsqu'elle entend son bébé pleurer. Souvent, les mamans doivent se retenir de ne pas courir tout de suite. On va le laisser pleurer 2-3 minutes, ça lui fait du bien. Et en même temps, il faut, si je le prends, il va se réveiller pour de bon. Je le laisse dormir. Quand on est tenté, je vous invite vraiment à le faire. Je le fais et ça marche, entre guillemets. Ça marche vraiment. Je mets le mot « marcher », entre guillemets, parce que ça fait un peu recette magique. Mais si vous vous souvenez, lorsque vous êtes tenté de crier à Dieu, « Jésus, aide-moi !» Il va courir pour venir vous secourir. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous en avez fait l'expérience? C'est formidable. C'est incroyable. C'est parce qu'il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté. Nous, on dit qu'on souffre parce qu'on est tenté par telle chose qui peut nous obséder ou qui peut nous être un fardeau. On ne veut plus... Lui, il a souffert plus que vous. Il a souffert plus que moi. Pourquoi ça? Parce que justement, il a été jusqu'au bout de la résistance. La meilleure façon de ne pas sentir la souffrance de la tentation, c'est de céder à la tentation. Après, on aura des remords, mais on ira au moins, j'arrête, je baisse les bras, vas-y Satan, ou je vais faire ce que tu me demandes de faire ou ce que tu me suggères. Mais Jésus, il a résisté. on ne connaît pas vraiment la puissance de la tentation tant qu'on ne va pas jusqu'à la rejeter complètement et à l'éviter. Et donc on peut aller à son trône de la grâce, là où il y a la conjonction de l'amour, de la justice, le trône de la grâce, pour obtenir compassion et encore une fois trouver grâce pour être secouru au moment opportun. C'est le même mot de accourir vers quelqu'un qui pleure. On peut trouver la grâce. Alors là, on rappelle la différence entre la justice et obtenir ce qu'on mérite. Vous dépassez la vitesse limite, vous obtenez une amende, c'est juste, c'est la justice qui s'applique. Il y a un autre mot qui est la miséricorde. La miséricorde, c'est ne pas obtenir ce qu'on mérite. C'est le policier qui dit « Bon, ben, ça va, je vous laisse passer pour cette fois-là. » Mais attention, ça, c'est la miséricorde. Et puis, la grâce, ça va plus loin encore. C'est obtenir quelque chose de bien qu'on ne mérite pas. Pour reprendre notre exemple du policier qui nous arrête sur la route, c'est comme s'il nous remettait une médaille pour avoir conduit vite sans causer d'accident, ou j'imagine je ne sais pas quoi. Donc la grâce, elle est là, sur ce trône, et on peut s'en approcher avec assurance. Assurance, c'est le mot qui veut dire en parlant librement, en ne retenant pas sa parole. Comme lorsque vous êtes avec des gens que vous connaissez, des proches, des fois, vous leur dites tout ce qui vous passe par la tête. Des fois, ce n'est pas très bien. Des fois, ce serait mieux d'exercer un peu de retenue. Mais on n'est pas là à se dire, à dire qu'est-ce que je dois, comment je dois parler, qu'est-ce que je vais dire. On se sent libre. Et on peut, ça c'est verset 16 aussi, c'est un verset à mémoriser, de s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Ça veut dire s'en approcher constamment, sans réserve, sans mots compliqués. « Oh Seigneur, si seulement tu pouvais déverser sur moi ta grâce infinie. » Non, simplement, « Jésus, j'ai encore fait une bourde, pardonne-moi. » Hier, je devais emmener mon fils à l'aéroport, et l'ascenseur était occupé par quelqu'un, utilisé par quelqu'un. Et j'étais impatient. J'ai entendu du bruit, ils étaient en train de charger en bas. Et puis j'ai vu que c'était monté au deuxième étage. Et puis je pensais que ça allait prendre quelques secondes, 30 secondes, mais 5 minutes plus tard, il y avait toujours la lumière. Et là, je suis pas allé au trône de grâce. J'ai crié, « Vous allez bientôt libérer l'ascenseur !» Pas de réponse. Du coup, je suis monté 4 à 4, les deux étages, et je suis tombé sur un voisin qui était en train de décharger des tonnes de victuailles. Il me dit, mais vous ne me parlez pas comme ça. Je lui dis, écoutez, je suis désolé, je ne voyais pas ce qui se passait. Mais j'étais vraiment mal. J'espère qu'il ne sait pas que je suis pasteur. Mais j'avais vraiment de la douleur dans mon cœur. Au point que je suis parti, finalement, je suis redescendu à pied. On est allé à l'aéroport, mon fils a attrapé son avion de justesse. Et au retour, j'avais encore la conscience tellement mal que je suis remonté avec une tablette de chocolat. Et je leur ai dit, je suis vraiment désolé, mais je ne sais pas ce qui m'a pris, j'aurais dû essayer de vous aider, je me suis emporté. Et ils ont été gracieux, ils m'ont dit, c'est bon, c'est pas grave, ça arrive. Mais on a besoin, et là j'étais mal devant Dieu, j'ai demandé pardon à Dieu. D'abord aux hommes, parce que c'est eux qui avaient reçu, mais je dis. Et en plus, j'étais en train de préparer un message sur la, sur l'amour et le pardon, la grâce de Dieu. Mais Dieu me comprend. Il a offert des sacrifices, il s'est offert lui-même en sacrifice. Donc il a rempli la condition de le ministère du grand prêtre. Et il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes, égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. En tant qu'homme, il ne serait jamais emporté comme ça. Mais il sait ce que c'est que d'attendre un ascenseur, qui n'en finit pas d'attendre et qui a autre chose à faire. Et à cause de cette faiblesse, il s'est offert lui-même en sacrifice comme le... Donc il a offert un sacrifice comme le grand prêtre devait offrir un taureau avant d'offrir un sacrifice pour le peuple. Il nous est dit que personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. C'est incroyable de penser que cette charge qui consiste à amener des pécheurs devant Dieu, pour Dieu, c'est un honneur.
Waouh!
Est-ce que moi je considère comme un honneur d'introduire des gens à Christ? Dieu lui-même pense que c'est un honneur que d'amener des hommes à lui. Chacun doit être appelé par Dieu. Et ça c'est vrai pour tout ministère. On ne s'improvise pas missionnaire, pasteur. Ce n'est pas trop un problème en France, parce que ce n'est pas un poste recherché, ce n'est pas un poste par lequel on peut devenir riche. Il y a peu de méga-church en France qui permettent de s'enrichir. Mais ça doit être un appel de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes tous appelés à être des prêtres. Nous sommes tous un royaume de prêtres. C'est-à-dire que nous devons être pour quelqu'un la personne qui amène Dieu à cette personne et qui amène la personne à Dieu, par la prière notamment. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça, c'était un verset 5, ça parlait de la résurrection. Il était aussi le roi, mon fils, et il est prêtre à la manière de Melchizédek. Ça, c'est une citation du psaume 110, verset 4. On va y revenir à ce personnage un peu mystérieux. Il est dit dans la Genèse, il en est question dans la Genèse, qu'il était roi de Salem. Salem, c'est le mot qui veut dire paix. Donc il était roi de paix. Il était aussi roi de justice, c'est ce que veut dire son nom. Melki, Malki, c'est le roi. Tzadok, Sedek, c'est la justice. Et il était un prêtre du Dieu très haut. Ce qui était remarquable, on sait peu de choses sur lui, sauf qu'il n'était pas de la tribu d'Aaron. Et donc, c'était un reproche qu'on pouvait faire à les Juifs pouvaient faire à la foi chrétienne, disant « Mais votre grand prêtre, il n'est même pas de la descendante d'Aaron. Comment est-ce que vous pouvez prétendre qu'il est un méga grand prêtre ?» Mais il était d'une autre lignée, il était de la lignée de Melchizédek. On reviendra sur le personnage. Et puis, il est dit que pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières, de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Donc ce grand prêtre, il était complètement homme, il savait ce que c'était que d'être homme, nous a représenté auprès du Père, et il a même souffert. Vous vous souvenez dans le jardin de Gethsémané, lorsqu'il disait « Père, que ta volonté soit faite, mais si cette coupe pouvait passer, si je pouvais ne pas avoir à passer par cette séparation d'avec toi, avec cette mort spirituelle pendant un temps, ça me conviendrait. » Il l'avait reconnu, il avait même demandé qu'on l'aide dans la prière, ses disciples. Vous vous souvenez, ils ne l'avaient pas fait parce qu'ils étaient fatigués, ils étaient bien disposés, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il a même des larmes qui se transformaient en grumeaux de sang, et aussi des grumeaux de sang qui se montrait à la surface de son visage. Ça, c'est intéressant, c'est une condition médicale qui est, depuis a été identifiée, reconnue. Lorsqu'il y a un stress intense, les capillaires peuvent éclater et du sang peut se mêler à la sueur. Il y a un mot technique pour ça. Sans sueur, non. Il y a du sang et il a fait des grands cris, il a supplié, il a dit que il a envoyé ses supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé. Pourtant, il est bien mort sur la croix. Il a été exaucé, ça veut dire qu'il est ressuscité. Il n'a pas été sauvé du fait de mourir, mais il a été sauvé du royaume des morts, il a été ressuscité. Et il est dit, ainsi bien qu'ayant été fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. C'est souvent quelque chose de difficile à comprendre. Mais c'est vrai que Jésus avait cette qualité d'homme, et en tant qu'homme, comme nous les hommes, il avait une répulsion pour la souffrance. Il n'y a que des gens dérangés, les masochistes, qui aiment que ça fasse mal, qui aiment la douleur. L'homme, normalement, a horreur de la souffrance. Et on peut penser que Jésus, lui qui disait « ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père », lui qui affirmait n'avoir toujours fait la volonté de son Père, qu'il n'avait pas besoin d'apprendre l'obéissance. Mais l'obéissance, elle doit aller jusqu'au bout. Et dans cette souffrance qu'il a reconnue, lorsqu'il disait « si tu peux éviter que j'ai à être séparé de toi », c'est ce que représentait la croix, la souffrance ultime d'être séparé de son Père avec qui il avait été pour l'éternité entière. Si ça peut se faire, je veux bien. Mais il a appris, il a dit « que ta volonté soit faite, pas la mienne ». Il a appris l'obéissance, il s'était vidé de ses prérogatives divines. Ça c'est dans Philippiens 2. Il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être resté égal avec Dieu, parce qu'il est réellement égal avec Dieu, il est Dieu, Dieu le Fils. Mais là, il s'est humilié pour être justement ce grand prêtre, être un homme qui est capable de présenter le meilleur, le sacrifice ultime. Et tous ces thèmes vont être développés maintenant dans le reste des chapitres qu'on va voir ensemble. Et il est dit qu'il a été parfaitement qualifié et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut. Une autre façon, une autre traduction, c'est qu'il est parvenu à la pleine maturité avec cette obéissance, où il a été élevé à la perfection par ses souffrances comme auteur ou comme prince de notre salut. Le mot de parfait ou cette idée de perfection, on la retrouve 12 fois dans la lettre aux Hébreux. C'est le mot qui veut dire quelque chose qui n'est pas sans péché nécessairement. Dans le cas de Jésus, c'était vrai. Mais c'est quelque chose qui est mûr, quelque chose qui est parvenu à la pleine maturité, quelque chose qui est pleinement développé et capable. Nos imperfections ne sont pas parfaites, ça c'est dit 4 fois. Christ, lui, est parfait, c'est dit 3 fois. Ce qu'il a accompli pour nous est parfait, c'est dit 2 fois. Le sanctuaire nouveau dans les cieux qui est parfait, c'est dit 1 fois. Et notre caractère chrétien doit tendre à cette perfection. C'est là qu'il n'est pas nécessairement sans aucun péché, mais il y a toujours cette direction, cette repentance. La repentance, c'est un retour à l'obéissance. Ça, vous pouvez le noter, si vous avez de quoi noter. Sinon, notez-le sur votre tablette, sur votre smartphone, ou je vous l'enverrai par Facebook. La repentance est un retour à l'obéissance. On ne devrait jamais quitter l'obéissance. On est sauvé pour obéir. On a souvent l'impression, et des gens bien pensants nous invitent à nous joindre à la foi chrétienne en disant « Vous allez être sauvés pour être heureux. » Alors le bonheur, le fait d'être heureux, ce n'est pas quelque chose qu'on recherche en soi. On ne vient pas à la croix pour être heureux. On vient à la croix pour obéir, pour servir. La bonne chose, c'est qu'en faisant ça, on va trouver notre vraie raison de vivre, notre vrai bonheur, la raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est être là où Dieu nous veut, c'est le meilleur endroit. Que ce soit géographiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit dans le service, dans nos circonstances. La question qui se posait donc pour ces juifs qui écoutaient ou qui lisaient cette lettre, c'était de se demander, et ils avaient le choix, quel grand prêtre est-ce que je veux suivre ? À l'époque, il y avait un grand prêtre. Le temple n'avait pas été encore détruit. On pense que ça a été, sinon ce serait bien mentionné dans la lettre. On ne pourrait pas passer un événement de cette importance. Donc ils avaient encore le choix. Ils pouvaient aller vers un grand prêtre qui n'était pas visible ou aller vers un grand prêtre visible. La différence, c'est qu'il y en avait un qui était un grand prêtre et l'autre, c'était le méga grand prêtre. Alléluia. Prions. Seigneur, merci pour ces rappels. Merci pour ces vérités que tu nous annonces par ta parole. Merci parce qu'elle est toute puissante, Seigneur. Et on le voit bien, combien elle fait du bien à nos cœurs, Seigneur, parce qu'elle te montre comme étant ce Dieu tout-puissant qui s'est humilié jusqu'à prendre un costume d'homme, à connaître notre condition humaine, Seigneur, à connaître même les tentations, même la douleur, la difficulté de la tentation, Seigneur. Et pourtant tu n'as jamais péché, et maintenant tu es sur ce trône de grâce, Seigneur. Aide-nous à y aller avec hardiesse, avec persévérance, jour après jour, moment après moment, ce trône de la grâce où nous pouvons ressentir ta compassion. Tu nous dis, oui, je sais ce que c'est que d'être tenté, je compatis. Mais surtout, tu nous donnes la grâce et tu viens nous secourir au bon moment, juste quand nous en avons besoin, Seigneur. Aide-nous à être fidèles dans cet accès au trône de la grâce. Sois béni, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.